Voilà, aujourd'hui, jour de fête à la Villa Cavrois à Croix. Bonjour.
Bonjour, je suis Karine Guimbard, l'administratrice de la Villa. Et nous fêtons aujourd'hui les 10 ans d'ouverture du monument. Nous avons invité différents artistes à faire la fête avec nous et avec nos nombreux visiteurs.
Voilà, donc on l'entend, hein, il y a beaucoup d'animation aujourd'hui. Vous avez préparé cette journée depuis longtemps ?
Alors ça fait effectivement plusieurs mois avec les équipes du monument que nous préparons cette grande journée. On a commencé très tôt ce matin avec un éveil dansé par Sylvain Gros et le Ballet du Nord. Et là, c'est un bal participatif.
Donc il y a beaucoup de monde aujourd'hui. En général, il y a quand même de la fréquentation dans ce lieu qui est très symbolique d'une époque. Peut-être qu'on pourrait raconter un peu son histoire.
Alors cette architecture a été édifiée par Robert Malestevens, l'architecte, en 1932 pour le couple Cavrois, des industriels du textile. Et ce riche couple des Hauts-de-France, en fait, a passé commande de cette architecture emblématique à Robert Malestevens, s'il voulait vraiment s'inscrire dans la modernité de l'époque.
Alors c'est vrai que cette modernité, elle a traversé le temps. Aujourd'hui, elle a été, on va dire, remise à la vue du public, rénovée d'une certaine manière. Donc il y a derrière beaucoup d'appui des monuments historiques, j'imagine.
Alors cette villa, depuis plus de 10 ans, donc 10 ans d'ouverture, mais à peu près plus d'une dizaine d'années avant de travaux, donc ce sont de nombreux corps de métier, l'architecte en chef, les entreprises qui ont aidé à la remise en état de cet édifice dans le cadre de sa livraison 1932.
Donc cet édifice a servi de lieu d'habitation, de bureau aussi. Qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce grand, on va dire c'est presque un immeuble, hein.
C'est une architecture domestique pour une famille, mais Monsieur Cavrois y recevait aussi ses nombreux clients.
Voilà, donc un lieu aussi symbolique d'une époque un peu révolue où l'industrie était florissante.
Oui, tout à fait. C'est vraiment, on était première moitié du XXe siècle. Effectivement, l'industrie textile du nord des Hauts-de-France aujourd'hui, toute la région était, ce textile était extrêmement florissant. Et c'est dans ce cadre-là qu'ils ont passé commande pour cette grande villa.
Donc la Villa Cavrois, à un moment donné, était un peu délaissée, sinon abandonnée. Depuis, ça s'est, on va dire, remis en forme pour que le public participe aussi à ce monument patrimonial.
Oui, l'idée, c'est vraiment de faire partager au plus grand nombre cette passion pour l'architecture et puis cette vie moderne que proposait l'architecte à la famille Cavrois. Effectivement, la villa a été habitée par la famille jusqu'en 1986 et ensuite elle a été vendue et puis elle s'est délabrée, elle a été laissée ouverte par des promoteurs qui l'avaient acquise et qui espéraient lotir et faire des programmes. Quand ils ont vu que le bâtiment était classé et qu'ils ne pourraient pas, ils ont laissé ouvert le bâtiment qui a été squatté. Elle a été extrêmement délabrée quand l'État a pu l'acquérir ensuite et lancer son programme de restauration.
J'imagine que ça a dû coûter assez cher, hein, et que donc l'intérêt maintenant, c'est que le public se l'approprie.
Oui, alors ce qui nous fait extrêmement plaisir aujourd'hui, 10 ans après son ouverture, c'est que les gens de la région viennent et reviennent et présentent à leurs amis cette architecture comme étant la leur, enfin en tout cas faisant partie de leur mémoire, de leur patrimoine. Donc ça, c'est une grande réussite pour nous. Et puis on essaye de l'ouvrir à tous les publics, à l'international, aux publics qui ont peut-être moins l'habitude de visiter aussi ces monuments.
Est-ce que cet immeuble-là a des correspondances ailleurs en France, sinon dans le monde ?
Alors, il y a de très belles architectures iconiques du XXe siècle, mais ici, on est sur plus de 2400 mètres carrés de plancher. On avait vraiment une appellation de château moderne. Donc, cette surface est extrêmement importante et la qualité très exigeante de la restauration en font quand même une œuvre d'exception, tant en France qu'à l'international.
Donc, il y a cet immeuble et pas loin de là, il y a un grand jardin qui est classé aussi. On peut peut-être en dire un mot.
Alors, vous parlez peut-être du jardin Malet Stevens. Alors, c'est un jardin qui a été créé en l'honneur de Malet Stevens par les services de la ville de Croix, de manière à avoir un espace vert très aménagé à quelques encablures de la villa.
Donc, on peut dire que ça fait un ensemble où il est intéressant de venir, même se déplacer spécialement.
Alors oui, on peut tout à fait venir à la villa, profiter de son parc, et on a de nombreux jardins. Vous parliez du jardin Malet Stevens, mais aussi le parc Barbieux, qui est à quelques encablures et qui est magnifique également.
Donc cette animation, comme aujourd'hui, pour vous, ce sera tous les 10 ans ou vous envisagez chaque année un gros événement à la villa Cavrois ?
Alors, pour l'instant, on ne s'est pas projeté, mais c'est vrai, quand on voit l'appétence, le plaisir, le sourire, les yeux qui pétillent aujourd'hui, on a quand même très envie de ne pas attendre 10 ans pour renouveler.
Voilà, donc vous devez être assez fier d'œuvrer à la perpétuation de cet endroit et d'en faire un lieu accueillant.
Oui, je partage avec toute mon équipe qui s'est investie. Et c'est vrai que quand on voit le sourire, les gens qui s'intéressent, qui nous posent des questions, qui partagent, on est vraiment ravis.
Bonjour, je suis Charline Guibert, responsable du pôle de la communication digitale au Centre des Monuments Nationaux.
Donc ce lieu, Villa Cavrois, fait partie du patrimoine, je ne vais pas dire mondial de l'humanité, quoique, mais des monuments historiques.
Tout à fait. En effet, il a rejoint le réseau de nos 110 monuments nationaux que nous gérons au sein du réseau, au Centre des Monuments Nationaux. Et en effet, il fait partie de la petite dizaine de villas remarquables que nous valorisons au quotidien. Et c'est un des joyaux des Hauts-de-France. Et ici, on est... Moi, en plus, étant sensible aux images, c'est un lieu très, très médiagénique où on peut sans cesse faire des photos, le redécouvrir, capter la lumière. Donc moi, sur ma partie communication digitale, ici, c'est un régal des yeux et aussi des images qu'on glane. Et en tout cas, comme monument accompagné, il est aussi très agréable par ses multiples images qu'on peut valoriser régulièrement. Et le nombre de sujets pour faire la promotion de ce monument est incroyable. Il y en a plein. Il y a l'entrée des objets, du mobilier, de l'extérieur, des points de vue, de comment on pouvait vivre au début du XXe siècle, c'était quoi être moderniste. Mais aussi, il y a toute cette question, et le cadre des 10 ans permet de questionner ça, c'est comment on restaure, comment on préserve, comment, par tout un champ de recherche, on essaie de restituer, reconstituer, ou essayer de retrouver quelque chose d'originel, même si tout ne sera jamais comme avant. Donc ce monument questionne aussi beaucoup ça, et les 10 ans permettent aussi, nous, sur nos réseaux sociaux, les sites internet, de raconter cette histoire, puisqu'aujourd'hui, tout paraît magnifique, mais tout a été aussi... on part de rien ou de quelque chose d'extrêmement abîmé et délabré, et voilà. Mais aujourd'hui, on s'émerveille. C'est une journée pour s'émerveiller.
La région de France est très riche en musées. Ce lieu, je ne sais pas si on peut le considérer comme un musée, quoique.
Il peut être considéré comme un musée parce que je trouve qu'il raconte beaucoup de choses aussi sur une œuvre d'art totale à la fin des années 20, au début des années 30. Parce qu'à la fois, aujourd'hui, par la collection et le fait de remeubler, on le remeuble, ce ne sont pas les meubles originaux, mais quelque part, c'est un ensemble. Donc on peut presque le considérer comme le musée d'une époque ou le musée d'une œuvre. Peut-être même un manifeste de Malet Stevens où il a eu une sorte en 4 ans ou 3 ans, presque 4 ans, de possibilité d'aller très très loin pour tout concevoir, quoi. Du moindre détail, de la visserie aux ouvertures, au choix des sols, des choses de plus du design. Donc c'est vrai que c'est presque un musée de cette époque et de cet architecte incroyable.
Alors c'est vrai que dans ce secteur qui fut habité par des riches, on m'a dit qu'il y en avait encore, qui se cachaient. Il y a de beaux endroits comme on va dire le Grand Parc Barbieux, on a aussi le Parc Malet Stevens qui est juste à côté. Ça fait un ensemble cohérent ?
Alors oui, ensemble cohérent. Alors moi, je ne connais pas tout. Peut-être encore moins que vous, quand même, tous ces lieux à les fréquenter quotidiennement. Mais en effet, il y a un ensemble cohérent. Moi-même, quand je suis ici, je pense à d'autres architectures de la métropole. Par exemple, j'ai beaucoup fréquenté le LAM. C'est loin et on est très loin, mais il y a quand même ce rapport aussi à une brique, à des formes qu'on peut retrouver. Donc je suis... voilà, dans ce que je connais de cette région, de cette zone du Nord, il y a plein de choses en écho qu'on arrive à relier, même à des époques très très diverses, 100 ans après. Donc je trouve qu'il y a un vocabulaire, oui, de formes d'architecture du XXe siècle dans cette région qui est incroyable aussi, quoi. Même jusque récente d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a une architecture du XXe et début XXIe assez incroyable dans cette métropole.
Est-ce que vous ressentez l'effet tourisme de ces lieux magiques ?
Bah, on voit qu'il y a quand même des visiteurs parfois qui avaient mis sur leur liste de venir à la Villa Cavrois un jour, et ça fait comme partie d'un voyage, hein, une opportunité, ou à un moment ils sont dans les Hauts-de-France parce qu'ils vivent parfois loin, près de Lille. En fait, dans la liste, il y avait venir à la Villa Cavrois parce qu'ils ont vu beaucoup d'images, parce que parfois ils sont sensibles à l'architecture et ça fait partie de leur wish list, comme on dit aujourd'hui, de visites à faire, et un jour ils finissent par venir. Tout à l'heure, dans la journée, on a parlé à des gens qui, parfois, il y en a un qui venait de Lyon, ça faisait 15 ans, 20 ans, il disait qu'il devait venir, et il a saisi l'opportunité de venir travailler dans le Nord pour une réunion et de rester, et il savait qu'il allait venir la voir. Donc, c'est un lieu qui y a beaucoup d'images qui circulent, c'est pas que la communication digitale, c'est aussi les médias, la presse. Et je pense qu'à un moment, ça inscrit quelque chose comme un endroit qu'on veut absolument voir en vrai, parce que déjà, par les photos, il nous marque, il nous intrigue, il nous séduit, quoi. Donc je pense qu'il y a des visiteurs, et puis il y en a, ils reviennent, ils sont venus une fois, ils veulent revenir, et voilà. Donc il y a aussi des gens qui viennent d'assez loin pour le voir, et même des étrangers, pas mal d'étrangers d'ailleurs, des Belges, des Allemands, de plus en plus apparemment d'Espagnols et d'Italiens, si on en croit les chiffres. Donc voilà, ils donnent envie et... Il suscite de l'intérêt, mais même pour des gens qui viennent de plus loin et qui ne vont pas que visiter le Vieux-Lille ou Notre-Dame de Paris s'ils passent à Paris. Donc il y a aussi un peu ce champ-là qui intrigue et intéresse, quoi.
Donc aujourd'hui, c'est un jour particulier, il y a beaucoup d'animation. Est-ce qu'on profite de votre côté de cette animation pour mettre des images en mémoire, pour les diffuser dans des lieux, dans des espaces qui attireraient d'autres visiteurs?
Alors oui, on a, dans le cadre de ces 10 ans, on a mis en place plusieurs campagnes, dont une campagne par exemple avec Art Tips, qui est une newsletter plutôt dédiée aux, on va dire, aux 18-25 ans, pour donner goût au patrimoine ou accès à la connaissance de l'histoire de l'art, avec un sens de la vulgarisation. Mais typiquement, ils ont fait une newsletter qui a très bien marché, diffusée à leurs 800 000 abonnés, des posts. Donc on essaie aussi de transmettre à peut-être une plus jeune génération qui, au moment où ce monument a été ouvert au public, était peut-être très jeune et pas forcément empreint de l'avant, de dans quel état il était, qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire revivre un lieu. Donc c'est l'occasion de la raconter et aussi de s'adresser à une plus jeune génération qui peut-être n'a pas cette... conscience quand on voit le lieu sublime de tout ce qu'il a traversé. Donc on profite aussi de véhiculer des images, de raconter cette histoire d'une autre manière aussi, avec les outils que nous permettent ces technologies et ces nouveaux supports aussi.
Voilà, alors le design, c'est quelque chose qui reste intéressant. Beaucoup de gens, les artistes, je pense, sont inspirés par le design, travaillent aussi dans cette... Ici, il y a vraiment de quoi voir, de quoi comprendre une époque.
Tout à fait. Et on voit qu'en effet, il y a des lignes, des matériaux, des effets de matière. Là, on est devant une table qui brille et qui reflète même le ciel de l'extérieur. Donc, il y a aussi tout un jeu que les éléments du mobilier créent sur l'architecture ou avec l'architecture ou avec la nature, hein, les arbres dehors, le ciel. Donc, à la fois, il y a ces objets qui sont très beaux à regarder par eux-mêmes, mais des fois, il y a des objets qui nous aident à regarder l'architecture ici, je trouve. Et c'est un peu la force du lieu. Et donc, on a l'œil qui circule avec beaucoup de formes à observer, regarder. Donc, c'est une lecture à la fois complexe, si on en croit à mes mots, mais en vrai, qui est aisée, qui fait qu'on est tout le temps avec l'œil en mouvement. Et rien n'est figé aussi, parce qu'il y a un effet de lumière qui se reflète et qui change même l'intérieur beaucoup au fil de la journée et selon le temps. Donc en effet, il y a cet aspect des lignes, des formes qui se renouvellent tout le temps. Et pour les artistes, il y a beaucoup de choses, parce qu'ici c'est aussi une manière de regarder peut-être les années 30, un type de mobilier, un rapport aux matériaux, un rapport à la technique aussi, si on regarde des manières dont les portes, il y a des endroits où il y a des commodes avec les tiroirs encastrés dans le mur, enfin il y a aussi beaucoup de technicité. Et aussi, l'occasion, là par exemple, il y a un accrochage d'œuvres du mobilier national, avec surtout des céramiques, mais il y a aussi souvent des choses qu'on ajoute et qu'on met en regard et qui permettent aussi de renouveler les choses, parce que, comme je disais, c'est un remeublement qui grandit année après année. Mais il y a aussi des invitations et des mélanges qu'on se permet de faire. Voilà, peut-être c'est parce que les Cavrois auraient choisi, c'est pas de leur choix, mais c'est des choses qui rentrent en résonance et qui complètent aussi le goût d'une époque.
On peut imaginer dans ce lieu des expositions temporaires d'objets qui viennent de différents musées, hein, pourquoi pas aussi de designers.
Oui, alors ça a été le cas. Je serais bien normal là comme ça spontanément d'en citer, mais il y en a eu par le passé. Et par exemple l'année dernière, il y a eu Fabrice Hibert qui a pu installer des œuvres in situ. Donc là, on est plutôt avec un plasticien. Mais il y a eu des expériences de mise en regard avec des designers. À cet automne, il y a le FRAC Picardie. Il y aura plutôt une installation liée à du dessin FRAC Hauts-de-France, pardon, qui sera mis en regard avec. Le mobilier, la circulation. Donc oui, il y a plein de... On voit que c'est un lieu qui inspire, c'est un lieu qui permet des mélanges, qui permet de convoquer plein de disciplines artistiques. Et à l'avenir, il y aura certainement, rien n'est pour l'instant gravé dans le marbre et à annoncer, mais des choses toujours en écho au design contemporain.
Voilà, et avec ces pièces déjà très grandes, qui deviennent immenses avec ces jeux de miroirs.
Oui, c'est ça, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure, on voyait le ciel dans cette table, mais on se voit soi-même, on voit les autres, et je trouve qu'aussi c'est un lieu où on a un rapport aux autres visiteurs aussi, qui est un peu particulier. On se voit, mais en même temps, du coup, tout le monde ralentit, on voit que les gens sont comme à regarder, on ne sait pas trop regarder, et je trouve que même les visiteurs marchent assez lentement, se posent. On voit que chacun regarde des choses différentes, même des angles de vue différents. Et en effet, il y a des jeux de miroirs, des jeux de reflets. Moi, tout à l'heure, j'ai juste regardé un rideau dans l'énorme salle de bain des parents, qui est incroyable, qui bougeait. Et c'est très bête, mais je pense qu'on se met dans un état de contemplation assez facilement ici.
Voilà, donc visite plus qu'à conseiller.
Tout à fait, il faut absolument venir voir la Villa Cavrois, vous ne regretterez pas, et voire même, vous aurez envie de revenir, parce que quand on vient une fois, on veut revenir.